comme sur une scène. Tu joues ta vie, tu joues avec les autres comme des figurants flatteurs qui sont tout juste bons pour vous mettre en valeur. Et si de temps en temps tu veux calmer tes envies, tu dis c'est moi qui mène, c'est moi qui choisis. Et quand ils ont rempli leur besogne animale, tu les jettes avec dégoût, comme on jetterait son journal. Quand ils deviennent gênants, quand ils deviennent trop fous, comme la reine dans Alice, tu cries trancher le cou. Mais le grand amour, il faut l'avoir connu. Tu en as trouvé un, mais impossible, bien entendu. Tu l'entretiens à coups de soupir, à coups de pleurs. Mais quand tu aimes le drame, tu trouves ton compte dans le malheur. Ça te donne du mystère pour tous ceux qui t'entourent. Et tu peux dire tout haut que tu connais le grand amour. Je crois que je peux prédire, même n'étant pas prophète, qu'un jour ou l'autre ça va te tomber sur la tête. Le réveil sera pénible, ma chatte, ma jolie. Ce jour-là, quand le charme sera parti. Mais en attendant, continue, ce n'est pas encore trop tard. Tu es belle, tu plais toujours, même s'il te faut un peu de phare. Vas-y, joue, fais pleurer, fais souffrir. Il y en aura toujours pour applaudir.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour, et aujourd'hui avec Sylvie. Bonjour Sylvie.
Bonjour tout le monde.
Eh bien, aujourd'hui, on va continuer à parler du livre de Jörg Blech, Les inventeurs de maladies, qui a fait l'objet d'émissions précédentes. Les inventeurs de maladies, manœuvres et manipulations de l'industrie pharmaceutique. C'est un essai traduit de l'allemand et qui a été édité en avril 2008 à partir d'un grand nombre d'articles parus dans d'importantes revues scientifiques. Jörg Blech a mené sa propre enquête. Exemples et révélations à l'appui, il développe une synthèse passionnante des dangers menaçant les patients, malades ou prétendus tels. Un livre, dit la quatrième de couverture, à lire absolument avant de se rendre chez le médecin. Et aujourd'hui, on aborde la ménopause.
Non, je crois pas.
Non, on n'avait pas parlé. Mais en tout cas, c'est la ménopause des hommes, l'andropause. Ça s'appelle comme ça.
Et plus spécifiquement, on va dire les troubles de l'érection. Voilà.
Oui. Alors, c'est le chapitre 8, intitulé « Les nouvelles souffrances des vieux messieurs ». Une nouvelle maladie mentale... n'importe quoi. Une nouvelle maladie menace le sexe fort. L'andropause, danger heureusement identifié par l'entreprise Schuster Public Relations et Media Consulting. Alors, je cite... La force de l'âge, 2/3 des hommes de plus de 50 ans ont des problèmes de santé, mettait-elle en garde l'opinion publique allemande en octobre 2002. Quand ils arrivent à l'âge critique, les hommes subissent eux aussi les sautes d'humeur, troubles du sommeil et autres désagréments climatériques. Mais la majorité ignore qu'un déficit de testostérone peut en être la cause. L'effrayante nouvelle se fondait sur un sondage réalisé par l'institut de sondage GfK Healthcare installé à Nuremberg. 711 hommes âgés de 45 à 70 ans avaient, en cochant des réponses dans un questionnaire, décrit leur état général. Au vu de la dépêche, il était impossible de savoir qui avait ordonné et financé la publication de ces résultats alarmants. Il s'agissait du laboratoire pharmaceutique berlinois Ked Bessins. Au même moment, l'entreprise Genapharm se lançait elle aussi sur les traces de l'épidémie mâle. Une étude annonce ainsi « Ni l'homme ni la société ne veulent accepter le fait que l'homme connaisse lui aussi un climatère, une phase de transformation. » Ailleurs, l'entreprise met en garde. « La baisse de performance qui se manifeste à partir de 40 ans a fréquemment pour cause le déclin hormonal de testostérone lié à l'âge. » Si Ked Bessins et Genapharm s'intéressent tant au retour d'âge de l'homme ce n'est pas par hasard. Depuis le printemps 2003, il commercialise un produit prétendument capable de donner un coup de neuf à l'homme délabré. Un gel novateur enrichi à la testostérone, la fameuse hormone qui transforme les petits garçons en hommes. L'activité de l'industrie pharmaceutique est de vendre des traitements médicaux. Or, dans le cas du déficit androgénique, la maladie vous est vendue en même temps que le produit. Les fabricants d'hormones ont en effet lancé des instituts de sondage, des agences de publicité, des agences de relations publiques, des professeurs de médecine et des journalistes dans cette entreprise. Faire connaître l'andropause comme une maladie sérieuse et largement répandue. Mais la maladie existe-t-elle réellement ? Il ne fait aucun doute que le taux de testostérone baisse au cours de la vie d'un homme. Jusqu'à présent, les médecins ne voyaient cependant là qu'une conséquence du vieillissement. La testostérone est l'hormone sexuelle mâle, androgène, la plus importante chez l'être humain. Chimiquement, la testostérone est produite à partir du cholestérol. Le processus a lieu dans les capsules surrénales et surtout dans les testicules. À partir de 40 ans, le taux de testostérone baisse de 1% par an. La cause de ce phénomène, une réduction de l'activité des cellules de Leydig dans les testicules et une modification de la répartition de l'hormone lutéinique qui stimule les cellules de Leydig. Cette baisse de la concentration en testostérone, évaluée à 1%, repose évidemment sur une estimation, puisque les scientifiques ont, pour la calculer, mesuré et comparé entre elles les valeurs hormonales de différents sujets, jeunes et vieux. Or, les valeurs de testostérone varient d'un homme à l'autre et le procédé est par conséquent imprécis. Il serait plus exact d'examiner le profil hormonal d'un seul et même homme au cours de plusieurs décennies. Mais jusqu'à présent, de telles études sur la durée sont rares. Une petite enquête, la New Mexico Aging Process Study, a suivi sur plusieurs années les modifications hormonales chez des hommes âgés de 61 à 87 ans. La baisse moyenne mise en évidence était de 110 nanogrammes par décilitre de sang et par décennie. Cette diminution est si restreinte que, dans certains cas, elle n'apparaît même pas si l'on tient en outre compte du poids de chacun des sujets. Au printemps 2002, cette baisse naturelle a été réinterprétée pour devenir, dans les conférences de presse, les guides s'adressant aux patients, les brochures destinées aux médecins et les publicités, un phénomène pathologique. Syndrome de l'homme vieillissant, climatère masculin, ménopause de l'homme, hypogonadisme lié à l'âge, andropause, DALA, déficit androgénique lié à l'âge. Les nouvelles souffrances des vieux messieurs ont connu bien des désignations. Heiner Monig, endocrinologue à l'université de Kiel, émet toutefois des soupçons. On tente ici d'attribuer au ralentissement physiologique des glandes sexuelles les stigmates d'une véritable maladie. Les deux fabricants en cause répliquent à cela que l'hormone en tube serait capable d'améliorer le bien-être, la libido, la densité osseuse et la masse musculaire des hommes ménopausés. Leurs produits, identiques, sont commercialisés sous les noms d'Androtop Gel et de Testo Gel. Et les gels doivent être appliqués tous les matins sur le ventre ou les épaules. Une boîte, correspondant à un mois de traitement, peut coûter plus de 65 euros selon le dosage. Ce qui est ici nouveau, ce n'est pas l'hormone de synthèse elle-même, mais la manière de l'utiliser. Les comprimés de testostérone produits dans les années 1960 firent un véritable flop. En effet, les hormones administrées par voie orale sont éliminées à 80% par le foie, une épreuve de force biochimique qui ne vaut rien à l'organe hépatique. Quant aux injections autrefois largement répandues, elles répartissent les hormones dans le corps de manière extrêmement inégale. Pendant les premières heures et les premiers jours, la circulation sanguine en est littéralement inondée, mais au bout des 3 semaines que dure l'intervalle entre 2 injections, l'hormone sexuelle ne circule plus que de manière parcimonieuse. Les montagnes russes hormonales entraînent des sautes d'humeur brutales, ainsi que des variations importantes de la libido et de la force musculaire. Les patchs à la testostérone, pour finir, ont eux aussi leur petit côté perfide. Le mieux est de les coller directement sur les testicules, car le scrotum est 40 fois plus perméable que d'autres régions du corps. Avant de coller le patch, il convient toutefois de se raser prudemment les testicules, ce que beaucoup d'hommes jugent désagréable. Et comble de malchance, les cruels patchs peuvent compresser et pincer la peau. Les hommes qui portent souvent la main à l'entrejambe seraient-ils donc sous traitement hormonal? En comparaison, appliquer le nouveau gel hormonal sur la peau, à partir de laquelle les molécules de testostérone pénètrent dans le corps, est un véritable jeu d'enfant. Le gel représente ainsi un médicament providentiel pour les hommes souffrant d'un déficit hormonal avéré. Parmi eux, les castrats ou les eunuques, ou encore les individus affectés du syndrome de Klinefelter, une maladie génétique liée à la présence d'un chromosome X supplémentaire. Chez d'autres patients, les testicules ont pu être détruits par une infection virale, une tumeur ou un accident. Les individus touchés ont des organes sexuels infantiles et une tendance à accumuler les graisses au niveau de l'abdomen. Une peau claire et fine, une voix aiguë, l'absence de pilosité sur le visage et le corps, ainsi qu'une musculature sous-développée sont alors typiques. Chez ces patients atteints d'hypogonadisme, l'apport artificiel de testostérone permet de rétablir les caractères sexuels mâles défaillants, raison pour laquelle la thérapeutique est autorisée. Oui, alors peut-être que dans cette démarche, il y a peut-être un petit côté validiste aussi, je ne sais pas si...
Discuter, je sais que je connais un copain qui était atteint de ce syndrome, oui. Justement, mmh. Et dont la mère, enfin il aurait fallu que ça se fasse à l'adolescence, dont la mère, qui était une mère assez, assez dévoratrice, quoi, mmh. Avait refusé qu'il le fasse alors que lui aurait voulu.
Ah, d'accord.
Oui. Tu vois, et parce qu'elle voulait le maintenir, ce qu'elle a réussi d'ailleurs à faire, qu'elle voulait le maintenir à la maison. Le fait est que ça... Même petit, normalement, par exemple, je sais que mon fils avait les oreilles décollées et qu'il en souffrait parce qu'on se moquait de lui. Mmh. Et à 8 ans, on l'a pris à part pour savoir si ça venait pas des parents de vouloir lui faire enlever les oreilles décollées, ouais. Enfin, rabattre les oreilles. Mmh. Et donc, comme c'est lui qui pleurait qu'on se moquait de lui et que ça venait de lui, c'est pas un truc non plus qui ait engagé sa santé. Mais enfin, sa vie sociale, elle était quand même très très perturbé, tu vois, tout comme d'ailleurs mon autre fils qui lui avait un problème de strabisme, et les deux ont donc eu leur problème résolu, mais cette demande est venue d'eux, quoi. Et là, quand les parents sont, c'est eux qui décident à la place de l'individu, c'est quand même un petit peu problématique de dire ah non, ça serait validiste de dire que tu dois pouvoir avoir une vie sexuelle, parce que c'est un truc qui empêche toute vie sexuelle. Je veux dire, le copain en question, quand t'as des organes sexuels qui sont sous-développés, c'est pas du tout la même problématique que l'idée des trans, hein. ça n'a rien, ou même des hermaphrodites, ça n'a rien à voir. Donc moi, je sais pas, sur cette idée de ce qui n'est que de l'ordre de la santé, et de pas prendre au sérieux quelque chose qui serait de l'ordre du, entre guillemets, du confort psychologique, quoi. Je trouve que c'est limite, c'est à toi d'en décider, de toute façon.
Oui, oui.
Et si jamais l'enfant dit non, moi je veux pas, je veux rester comme ça, c'est autre chose. Tu peux dire c'est la pression sociale, mais enfin, là aussi, qui peut se vanter, on a tous été enfants, adolescents, qui peut se vanter de s'en foutre, qu'on se foute de sa gueule constamment, par exemple, tu vois, et de pas avoir de vie sentimentale, par exemple, tu vois. Bon. Enfin, c'est mon avis.
Oui, puis ça doit varier un peu selon les individus.
Enfin, oui, je suppose. Bien qu'à mon avis, ça ne doit pas être très fréquent que des ados, par exemple, disent non, je veux rester avec le physique que tu viens de décrire, quoi. Tu vois, à mon avis, ça ne doit pas être très fréquent. Hein, mais bon.
Oui. Bon, en plus, là, on parle bien d'une maladie, le syndrome de Klinefelter.
Oui.
Mais peu d'hommes souffrent de ces maladies. En Allemagne, on compte, par exemple, 80 000 hommes atteints du syndrome de Klinefelter. De tels chiffres sont loin de pouvoir transformer le traitement androgénique substitutif en best-seller pharmaceutique. En revanche, plus de 12 millions d'hommes âgés de 50 à 80 ans vivent sur le territoire allemand. C'est ici que la médecine et le marketing se séparent. En août 2002, lors d'une réunion stratégique chez Kate Bezins, il fut signalé dans une présentation qu'Androtop Gel ne remporterait un succès qu'à la condition d'éveiller un intérêt pour le produit. C'est pourquoi l'entreprise s'applique aujourd'hui à présenter la testostérone comme une sorte d'antipoison contre le vieillissement. Âge réel, 58 ans. Âge ressenti, 48 ans. Voilà ce qui figure sur une brochure récemment imprimée et destinée aux patients. On peut lire dans le livret « Vous n'êtes pas forcé d'accepter les désagréments de l'âge sans réagir ». Genapharm exagère le syndrome de déficit androgénique au point de le transformer en un véritable problème de santé publique. Je cite « Des estimations épidémiologiques évaluent à au moins 2,8 millions le nombre d'individus touchés en Allemagne. » Fin de citation. Selon l'Institut américain de recherche sur le vieillissement, le prétendu déficit pourrait même être défini comme touchant jusqu'à 50% des hommes vieillissants qui deviennent ainsi candidats à un traitement hormonal substitutif. Laboratoire pharmaceutique et groupe de médecins ont déjà réussi la prouesse de transformer une catégorie saine de la population en individus souffrant d'un déficit hormonal et nécessitant une prise en charge médicale. En Allemagne, une femme de 40 ans sur 4 suit un traitement œstrogénique. Après les femmes, c'est donc à présent le tour des hommes. Lors de la réunion Kate Bezins d'août 2002, le laboratoire présenta la photographie d'une femme d'âge mûr. Les hormones m'ont aidé à lutter contre la nervosité, les bouffées de chaleur et la baisse de libido, lui font dire les publicitaires. Si seulement il pouvait exister la même chose pour les hommes. Fin de citation. Pourtant, l'Institut fédéral des produits pharmaceutiques et médicaux, qui siège à Bonn, n'a en aucun cas autorisé les gels à la testostérone dans le cadre du traitement de la ménopause de l'homme. Il rappelle que le gel ne peut être utilisé que dans des cas attestés d'hypogonadisme, c'est-à-dire de fonctionnement insuffisant des testicules. Malgré tout, rien ne s'oppose à une prescription en masse. Au nom de la liberté thérapeutique, tout médecin est autorisé à prescrire un médicament, même en dehors des indications prévues, dès lors que celui-ci a été autorisé.
Oui, alors donc, il y a quand même pas mal de, pour moi, de commentaires à faire par rapport, le fait qu'il y a du pognon à se faire, je pense que, on est d'accord là-dessus, n'importe comment, les capitalistes font du pognon avec absolument tout. Oui. Que ce soit bénéfique ou maléfique, ils en ont pas grand chose à cirer. C'est comme, c'est comme de la vermine, c'est comme des tiques. Une tique, elle se demande pas si elle te fait du bien ou du mal, elle veut ton sang, c'est tout. Et donc, ils ont pas d'état d'âme, ils peuvent aussi bien se faire du pognon avec quelque chose de bénéfique qu'avec quelque chose de toxique et même de carrément mortifère. Quoi.
Oui.
Mais donc déjà, cette précision quand même étant apportée, il y a des trucs par rapport à ça, c'est que ils disent qu'ils transforment ça en maladie. Ça me paraît un petit peu, bon, c'est du baratin de vendeurs de marchands de tapis, quoi, tu vois, de prétendre que ça va, ou même pour prétendre que ça soit quelque chose pour la santé en général, alors que je suppose que la plupart des hommes qui vont consulter un médecin parce qu'ils n'arrivent plus à bander, leur problème c'est celui-là. Et quel que soit leur âge, d'ailleurs, parce qu'un peu plus loin, on ne va pas tout lire, mais enfin, ils admettent qu'il y a des gens qui peuvent avoir des troubles de l'érection qui sont liés, qui sont soit à leur constitution ou à une maladie ou psychologique, enfin, toutes sortes de raisons comme ça. Mais contrairement à ce que dit un peu plus loin en plus l'auteur, c'est pas qu'ils veulent lutter contre la vieillesse ou qu'ils supposent que ça va arranger leur masse osseuse, c'est parce qu'ils voudraient bander. Donc en effet, l'auteur a pas tort de dire que si on présente ça comme une maladie, c'est erroné. Mais que c'est un problème, ouais, pourquoi pas. Je veux dire, qui il est pour supposer que c'est pas un problème, quoi, tu vois. Et quant aux effets, parce que je suis allée me renseigner sur j'ai regardé sur internet hier soir sur la loi, quoi, par rapport à ça. Donc, alors déjà, je précise que c'est absolument, sauf cas très très rare, comme il dit, parce que ça c'est allemand et ça date déjà de
2008,
oui. Eh bien, alors il y a eu d'autres concurrents au Viagra qui sont arrivés parce que indéniablement, t'as pas besoin d'être un spécialiste du marketing pour te douter qu'il y a plein de pognon à se faire. Quand même, c'est vrai. Il y a dans 1 à 10% des cas, il y a des effets secondaires qui peuvent être très très désagréables. Quant à l'aspect avoir une crise cardiaque, eh bien, en principe, hein, justement, tu dois être, ça ne peut être que sur prescription médicale, et il faut faire une batterie de tests pour voir si tu n'as pas de contre-indication, comme par exemple une faiblesse cardiaque. Tu vois. Mmh. Et donc, à partir de là, j'ai l'impression que c'est quand même exagéré de dire que ce serait pour qu'on transformerait ce problème de vouloir bander en un problème médical. C'est un problème tout court, je veux dire. Et après, moi, ce que je trouve intolérable dans tous les scandales médicaux, c'est particulièrement quand tu prends le pour et le contre, qu'on t'a caché ce qui était contre, à savoir les effets secondaires, et qu'on te prétend qu'il y aura un effet bénéfique qui n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est limite, justement, hygiéniste que de dire « Ah, c'est une invention des laboratoires », que ce soit un problème de pas bander. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Donc, je suis quand même très réservée sur cette... sur le... la vision des choses de l'auteur.
Bon, après, il peut y avoir aussi des mélanges chimiques tels que Viagra, cocaïne ou des choses comme ça, ou des excès avec ce qu'on appelle le chemsex, où il y a, par exemple, on avait eu l'histoire avec Pierre Palmade qui avait causé un accident de la route parce qu'il pratiquait un peu beaucoup, il consommait beaucoup de produits, en fait, et que ça...
C'est pas principalement la cocaïne, quand même ?
Ben, oui, enfin, disons que il y a eu une audience récemment, et il racontait quand même qu'il pratiquait le chemsex, c'est-à-dire le sexe et la chimie associés. Et voilà, donc il peut y avoir aussi, avec le Viagra, en l'occurrence, ou des produits comme celui-là, quelque chose de très, très... on va dire d'extrêmement récréatif, mais qui peuvent aussi avoir des conséquences terribles.
Finalement, c'est le même problème que toutes les substances récréatives, même on va dire le pinard par exemple, ou le sucre, ou le fait de bouffer comme un chancre, où je trouve que c'est les individus qui décident de la part de risque qu'ils sont prêts à prendre, du moment qu'ils savent dans quoi ils mettent les pieds. Le seul problème pour Palmade, pour moi, c'est qu'il ait pris le volant, hein, franchement. Il avait bien les moyens de se payer un taxi, mince. Non mais c'est vrai, quoi.
Ouais.
Non mais tu vois, je veux dire, c'est ça le problème. Mais en soi, qu'il se flingue la santé, peu ou prou, je trouve que c'est très hygiéniste de dire tu n'auras jamais faire un truc qui soit mauvais pour la santé. Encore une fois, c'est pas remboursé par la Sécu, de toute façon, ces médicaments-là. Donc, puisque c'est pas remboursé et que tu es averti des risques, c'est toi qui vois. D'ailleurs, quand tu es complètement honnête, tu dois reconnaître que c'est quand tu es pas en bonne forme physique et que tu baisses comme un lapin, même avec le secours de la chimie, quelle est la part du fait que tu pousses un peu le bouchon et que tu as pris ce médicament? Ça doit pas être évident de... Tu vois, à l'époque où ces médicaments n'existaient pas, il y a eu des histoires où on a retrouvé des mecs clamsés au bordel parce qu'ils avaient un peu tiré sur la ficelle. Bon, voilà. Donc, tu vois, je suis extrêmement réservée. En plus, le nombre de cas où j'ai vu... enfin, j'en reparlerai peut-être tout à l'heure après les deux passages qui sont l'épilogue un peu du chapitre, me paraissent aussi sujets aussi à d'autres comparaisons et développements, je trouve. Donc, et parce que c'est pas seulement, comme pour le reste du livre, que je trouve vraiment remarquable dans la démonstration pratique, qu'on invente, en effet, les laboratoires inventent, la dernière fois c'était sur la ritaline, hein, c'est bien ça, qu'ils inventent l'hyperactivité histoire de fourguer des médicaments aux parents qui voudraient que leur gosse leur foute un peu la paix. Enfin bon, je veux dire, c'est complètement indéniable. Mais en revanche, le côté c'est la vie, t'as qu'à être résigné, c'est comme ça, on combat pas la vieillesse. C'est pas la vieillesse que les gens veulent combattre, la plupart du temps c'est les symptômes de la vieillesse. Ils ont effectivement des problèmes de santé, je vois pas pourquoi, au nom de quoi tu serais résigné à ce que ta qualité de vie, même si c'est pas une maladie, c'est toi qui vois. Si tu es d'ailleurs, c'est ta meilleure morale en buvant un petit coup et tout, ou en bouffant du sucre, et que tu sais ce que tu risques, mais voilà quoi. Tu prends ce risque-là parce que tu pèses le pour et le contre et tu dis voilà, pour le plaisir, en effet, c'est pas une maladie du tout de pas bander ou même de, par exemple, pour la pilule, être enceinte, c'est pas une maladie que je sache. Mais non, tu veux pas d'enfant parce que tu trouves que ta qualité de vie en souffrirait. Enfin, tu vois. Donc, je suis très circonspecte sur son éthique et pas du tout sur ses démonstrations. Pratique que je trouve absolument carré et remarquable, parce qu'il apporte des tas d'éléments très concrets sur le côté, toutes les techniques de manipulation des laboratoires. Voilà.
Voilà, on va faire une pause avec Courge et on revient tout de suite.
Yes.
Une chanson bucolique de Matt Conturc et de Courge.
Voilà, c'est Courge et le groupe de Matt Conturc, dont il est d'ailleurs, je crois, la plupart du temps le seul membre. Mais donc, Matt Conturc, dont je recommande les bandes dessinées, c'est un anarcho-punk, bucolique, enfin, assez écolo, quoi. Et donc, ces BD sont à la librairie Publico. Principalement Sclérose en plaques, une BD autobiographique, puisque toutes ces BD sont autobiographiques pour ainsi dire, et où il raconte sa sclérose en plaques. Voilà.
Et donc salut à lui s'il nous écoute.
Oui.
York Beck, les inventeurs de maladies, manœuvre et manipulation de l'industrie pharmaceutique, sur l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Sur Radio Libertaire 89, 4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Alors, les inventeurs de maladies avec le chapitre Les nouvelles souffrances des vieux messieurs. Et le sous-chapitre intitulé Longue vie aux eunuques, suivi de sous-chapitre intitulé La fable de la fontaine de Jouvence. Longue vie aux eunuques. Si la testostérone est censée nous aider à lutter contre le processus de vieillissement tant redouté, c'est peut-être parce qu'elle abrège considérablement la vie. C'est du moins ce que donnaient à entendre les études menées pendant plusieurs années sur des sujets castrés et des sujets indemnes. Ceux d'entre eux qui devaient vivre sans testicules et donc sans testostérone vivaient en moyenne 15 ans de plus que les sujets indemnes. En plus, la castration avait eu lieu prématurément. Plus la castration avait eu lieu prématurément, plus l'allongement de la durée de vie était important.
Peut-être c'est parce qu'il se fatiguait moins au plus marre.
Ah oui, hypothèse.
Oui.
Le biologiste Ian Owens de l'Imperial College de Londres suppose que le décès prématuré des hommes normaux a pour origine la testostérone produite par le corps humain. L'hormone mâle affaiblit en effet les défenses en freinant l'apport d'énergie au système immunitaire, sans doute afin que l'homme puisse utiliser celle-ci pour d'autres activités. Cet effet de la testostérone a été confirmé lors de l'étude comparative incluant des castrats. Le taux de mortalité plus élevé chez les hommes normaux s'expliquait par l'apparition de maladies infectieuses et non par des causes violentes ou des accidents. Les chercheurs expliquent ainsi la mort prématurée du sexe fort par la testostérone. Dans les pays occidentaux, les hommes meurent en moyenne 7 ans avant les femmes. Il est vrai que Les hommes décèdent plus souvent dans des accidents de voiture et sont plus souvent victimes de meurtres ou candidats au suicide. Ils sont également plus souvent affectés par le virus du sida et consomment plus de drogue que les femmes. Mais si l'on fait abstraction de ces paramètres, la différence relevée quant à l'espérance de vie des deux sexes persiste. Il semble que les hommes offrent une meilleure prise aux bactéries et aux parasites que les femmes. D'une part, le corps masculin est plus imposant que le corps féminin. Et d'autre part, l'homme produit en grande quantité une substance qui affaiblit ses défenses immunitaires, la testostérone. La fable de la fontaine de Jouvence. La quête de la jeunesse éternelle est aussi vieille que l'humanité. Si les affaires des alchimistes étaient si florissantes au Moyen-Âge, c'est notamment parce que l'or était considéré comme le plus puissant élixir capable de l'offrir une longue vie. Aujourd'hui, certains médecins, quelques biologistes et des entreprises douteuses ont endossé le rôle du charlatan. Sous le couvert de la médecine anti-âge, ils bombardent l'opinion publique de semi-vérités. Le vieillissement et les phénomènes qui lui sont associés sont ainsi présentés comme une maladie qu'il convient d'enrayer. À 50 ans, notre corps ne produit déjà plus qu'un tiers de la quantité hormonale d'origine, annonce par exemple la Société allemande pour la médecine anti-âge qui siège à Munich et compte 600 membres. Ceux-ci se consacrent à l'étude des moyens permettant de ralentir, de stopper ou même d'inverser le processus de vieillissement. Dans un entre guillemets état des lieux, les docteurs anti-âge suggèrent même qu'en plus de la testostérone et de l'œstrogène, d'autres hormones pourraient être propres à lutter contre l'agonie de la jeunesse. L'administration de DHEA pour déhydroépiandrostérone favoriserait selon eux le désir sexuel et le bien-être. Elle ferait baisser le taux de cholestérol, encouragerait l'élimination du tissu adipeux et augmenterait la capacité de concentration. D'après la brochure, la prise de mélatonine protégerait tes radicaux libres, améliorerait les défenses immunitaires et chasseraient les humeurs dépressives. La consommation d'hormones de croissance, enfin, serait censée encourager la régénération cellulaire, améliorer la tonicité du tissu conjonctif, augmenter le désir sexuel et renforcer le système immunitaire. Tout cela paraît crédible et pourtant la vérité est tout autre. Aucune préparation hormonale, aucune vitamine, aucun antioxydant, aucune opération et même aucune modification du mode de vie n'est en mesure d'influencer de manière notable le processus de vieillissement. Telle est la conclusion, triste mais indiscutable, à laquelle sont parvenus récemment Jay Olshansky de l'Université de l'Illinois à Chicago et d'autres éminents chercheurs américains sur le vieillissement. Les 51 savants mettent clairement en garde l'opinion publique contre les fausses promesses de l'industrie de jouvence. Je cite « Les gens doivent savoir que, d'après les connaissances scientifiques actuelles, aucun des moyens disponibles jusqu'à ce jour sur le marché n'est propre à ralentir, à arrêter ou même à inverser le processus naturel de vieillissement. Certaines des méthodes préconisées peuvent même représenter un véritable danger. » Fin de citation. Jusqu'à présent, les chercheurs n'ont pu identifier, ni chez l'animal ni chez l'homme, une échelle de graduation du déclin physique. Les aiguilles qui courent sur l'horloge du vieillissement n'ont pas encore livré leur secret. Or, en l'absence de points de référence sérieux, les prophètes anti-âge ne peuvent en aucun cas déterminer si leur action a un effet quelconque. Une fois la machinerie vitale lancée, celle-ci courit irrémédiablement à sa perte. Pincements disco, fracture de la hanche, rides, cataractes, hémorroïdes, dilatation veineuse, mais aussi protéines modifiées et gènes mutants, telles sont les manifestations d'une transformation peu réjouissante, mais naturelle. Au fil des ans, des dommages dus au hasard s'accumulent dans les moindres recoins du corps humain. Vieillir n'est que cela. Dès la prime jeunesse, des mécanismes de réparation sont activés contre le déclin général, mais, un jour ou l'autre, ils sont dépassés par les défaillances qui se multiplient. Une inévitable tragédie. Les cellules, les tissus et les organes ne travaillent plus qu'à régime réduit. Le vieillissement pointe le bout de son nez. les masses musculaires et osseuses diminuent, la vue et l'audition sont de moins en moins performantes, la peau se ride, le temps de réaction s'allonge, l'être humain est en outre plus sujet à des maladies telles que les affections cardiaques, la maladie d'Alzheimer, le cancer ou les attaques cérébrales. Les chercheurs regroupés autour de Jay Olsonski affirment dans leur déclaration que ces affections ne sont cependant que des manifestations liées au vieillissement. Elles ne peuvent donc être mises sur le même niveau que ce dernier, car même si l'on devait un jour éradiquer les maladies du vieillissement les plus typiques, qui représentent aujourd'hui la première cause de décès dans les pays industrialisés, le processus de vieillissement ne disparaît pas pour autant. D'autres maladies viendraient se substituer aux maladies qui affectent aujourd'hui le sujet âgé, et du fait du vieillissement, des fonctions physiologiques telles que la circulation sanguine finiraient de toute façon par être anéanties. Fin de citation. L'espérance de vie dans les pays industrialisés n'a cessé de croître depuis 1840, gagnant chaque année 3 mois supplémentaires.
On leur fait pas dire.
À Rostock, des scientifiques de l'Institut Max Planck pour la recherche démographique estiment que la barrière biologique de l'âge n'a pas encore été atteinte. En 2060, l'espérance moyenne de vie pourrait atteindre 100 ans. Les habitants des pays riches ne vivent cependant pas plus longtemps parce qu'ils vieillissent autrement, mais parce qu'ils vivent autrement. L'aisance, les médicaments, la nourriture, mais aussi et surtout l'hygiène, jouent ici un rôle prépondérant.
Tu noteras qu'il dit un truc et le contraire après. Hein. Oui. Moi, je note, hein, c'est tout. Il a dit que, quoi qu'on fasse, ça n'avait pas d'importance. Et après, il dit que ça joue un rôle prépondérant. Moi, je veux bien, mais il faudrait qu'il se mette un peu d'équerre avec lui-même, quoi, l'auteur, hein, je veux dire. Mm-hmm.
Oui. Je finis le texte et on rediscute ensuite. Mm. En revanche, il n'existe pas de gènes qui détermineraient la durée de vie. L'évolution favorise les gènes qui sont utiles à la reproduction et ainsi à la transmission du patrimoine génétique. Ce qui arrive à un individu au-delà de la phase pendant laquelle il se reproduit et élève ses enfants n'est plus soumis aux mécanismes de sélection et de l'évolution. Certes, de nombreux caractères héréditaires influencent la durée de vie, mais cela ne se produit que de manière indirecte. Il n'y a pas de gène du vieillissement. Si l'espérance de vie des êtres humains atteint 70 ans ou plus, ce n'est, d'un point de vue évolutif, que pur hasard. Les perspectives de soins sont donc incertaines. Comme il n'existe aucun programme génétique responsable du vieillissement et du décès, le processus de vieillissement n'offre aucune prise nette pour le combattre à la manière d'une maladie, expliquent les chercheurs spécialistes du vieillissement. Même une activité physique régulière et une alimentation saine ne nous permettront pas d'échapper au destin qu'est le vieillissement. Le sport et une alimentation raisonnée peuvent certes aider à lutter contre les maladies et nous permettre d'accéder ainsi à une vie plus saine et plus longue, mais le vieillissement lui-même est irrémédiable.
Oui, ben, je me répète, hein, c'est bizarre, oui. Il dit un truc et le contraire. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il devait y avoir comme une part de lui qui sait bien que sa position, elle est morale, mais très, elle est très malaisée, parce que évidemment que tout le monde sait bien que on a gagné en espérance de vie. Tout le monde sait aussi que selon les endroits où tu vis et si t'es d'ailleurs par exemple l'espérance de vie des ouvriers est bien moindre que celle des cadres. Quand t'as une vie difficile, un métier très dur, etc. C'est quelque chose qui va bien sûr abréger ta vie. Je me demande à qui il fait allusion en pensant qu'il y a des gens qui croient que on va arrêter définitivement le processus de vieillissement. Les gens veulent simplement vivre le plus longtemps possible et en effet dans le meilleur état de santé possible. Et en effet, t'es pas idiot, tu sais bien que rien n'est, que même s'il y a des gens qui meurent prématurément malgré une très bonne hygiène de vie, une mauvaise hygiène de vie a quand même des bonnes chances de précipiter les choses. Tu dis, moi Serge Gainsbourg, j'ai été même épaté qu'il vive jusque-là, honnêtement, vu ce que c'était que son mode de vie. Non mais c'est vrai quoi. Et donc, il dit un truc, je trouve, et puis le contraire. On peut pas, c'est irrémédiable, on peut rien faire, et en même temps, on peut allonger la vie. Personne ne pense sérieusement qu'il va vivre éternellement, parce que il le dit à un moment donné, il dit, par des médicaments, par une vie saine, une activité sportive, on peut allonger la vie. Bah oui, Coco, la plupart du temps, oui. Même si c'est pas sûr à 100%, bien sûr. Et bien entendu que les Occidentaux vont vivre plus longtemps que... Enfin, on sait bien que, par exemple, ceux qui travaillent dans les mines en Amérique du Sud, en mangeant trois fois rien, qu'ils ont une espérance de vie extrêmement réduite. Et ça, rien... C'est pas du tout lié à la fatalité. Donc, il y a aucun... Pourquoi est-ce qu'on serait fataliste, en un mot commençant ? Tu te dis... Et pourquoi l'alternative, ça serait soit t'es un pêcheur de lune et tu crois que tu vas vivre éternellement et que tu vas définitivement stopper le vieillissement, ou bien tu étais résigné, tu pleures dans la soupe et c'est tout. Tu vois ce que je veux dire ?
Chose entre
je trouve
les deux.
C'est bizarre, ouais, sa position.
Il y a quelque chose entre les deux. C'est ça.
C'est même... Enfin, moi, je le ressens même pas comme entre les deux. C'est autre chose. Oui. C'est-à-dire que moi, je crois, par exemple, que quelqu'un qui se dit « Merde, je bande plus, j'aimerais bien bander encore », il sait pas qu'il se pense qu'il est malade ou qu'on l'a convaincu qu'il était malade, il aimerait bien bander, point barre. Oui. Tu vois, je veux dire, on n'a pas besoin d'influencer beaucoup. Tout comme les femmes, on n'a pas eu besoin de les baratiner énormément quand la pilule est apparue pour qu'elles se précipitent sur l'aubaine. Et pourtant, il y avait des médecins réac. Moi, j'ai eu affaire à un médecin réac qui m'a dit « Oh, mais là, comme j'étais jeune et tout, vous allez avoir le cancer, grossir. Je m'en fous à boule. Je veux pas tomber enceinte. » Et de tout temps, pour les femmes se faisaient avorter, elles savaient qu'elles risquaient la mort même. Elles risquaient d'être mutilées et même tuées en faisant ça, mais elles étaient prêtes dès qu'on leur a dit « il existe un médicament qui est efficace à 100% pour pas tomber enceinte », elles se sont jetées sur l'affaire en connaissant les risques, parce que c'était de notoriété publique, mais parce que tu pèses le pour et le contre et tu te dis « pour pas avoir de bébé, je suis prête à prendre le risque ». Là, si jamais il y a des hommes qui, en connaissance de cause, se disent « j'aimerais bien bander », qu'est-ce qui lui fait dire que c'est parce que on l'a convaincu que c'était une maladie de pas bander ? Pourquoi ils croient ça ? Peut-être qu'ils ont envie de baiser et qu'ils sont malheureux de pas pouvoir le faire. De même, je veux dire, c'est quand même... On dirait qu'ils poussent la logique du bouquin dans tous les domaines possibles. Tu vois, comme je veux dire, je me rappelle, on avait fait un débat sur les antithèques, où on avait un peu la position inverse, faut bien dire, avec le groupe d'Ivry, et où on disait que le problème c'était le capitalisme et pas la technologie, quoi. Mais il y a un antithèque qui nous avait dit, je crois que c'était Peter Venner d'ailleurs, il avait dit que y avait des femmes en Amérique du Sud, je sais plus, c'est pas dans les montagnes, qui avaient trouvé une super tisane qui, sans aucun effet secondaire, avait les mêmes effets bénéfiques que la pilule et sans les effets négatifs. Je te raconte pas le tollé côté féminin en particulier. On avait dit, alors là, on fait pas d'expérience quoi hein, avec ça. Oh merde, raté, on était enceinte quand même, sûrement pas. Et qu'on voulait bien la pilule sans effets, enfin, qu'elle a moins d'effets secondaires que à ses débuts. Et c'est la seule chose qu'on demanderait. On court pas après les effets secondaires. Mais pourquoi partir perdant, quoi, tu vois ? Mais en tout cas, je trouve qu'il fait comme une espèce de procès d'intention aux gens qui voudraient combattre, avoir la même qualité de vie, vivre le plus longtemps possible dans le meilleur état de santé possible, comme s'ils avaient été simplement manipulés par les laboratoires. Et moi, je suis pas d'accord. Voilà.
Ouais, d'accord. Mais en même temps, il y a l'industrie médicale et pharmaceutique qui essaie toujours de d'illusionner les gens avec une espèce de avec des espèces de prophéties comme par exemple il y a des savants dans le livre toujours de York Blake, Les inventeurs de maladies, il cite des médecins qui expliquent par exemple que Il faudrait abolir la menstruation ou des choses comme ça pour le bien de toutes les femmes.
Etc. C'est drôlement bizarre parce que figure-toi que c'est un peu le contraire. Hein, je te dis d'un point de vue purement technique, hein, c'est que curieusement, quand tu prends la pilule, tu n'as plus de règles. Mais les femmes aiment pas ne plus avoir de règles.
D'accord.
Donc tu t'arrêtes. Premièrement, c'est bien d'arrêter un peu, mais le fait d'arrêter, on provoque des saignements.
Ouais. Il faut dire
on
c'est
provoque des saignements qui ne sont pas des règles.
Il faut dire que c'est un homme qui affirmait ça. Hein. C'était pas une femme.
Ah d'accord.
Hein.
Non parce que c'est oui voilà. Mais en fait et d'ailleurs. Personnellement, du coup, j'ai pris une pilule qui s'appelait la Diane et qui était extrêmement toxique, qui pouvait, en particulier pour quelqu'un qui fume en même temps, avoir vraiment des effets secondaires redoutables que le médecin s'était bien gardé de me dire, tu vois. Et il y a eu un vrai scandale autour de cette pilule parce que, accessoirement, elle n'était pas aussi efficace que les autres. Et le résultat mesure 2 mètres de haut aujourd'hui, si tu veux. Et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, parce que j'avais des règles. J'avais des règles parce que la pilule n'était pas efficace, mais elle me provoquait des saignements.
Oui.
Et donc je croyais avoir mes règles. Mmh. Donc je me demandais pourquoi je gonflais comme ça, et je suis allée voir un gynécologue, j'avais pas souvent, tu vois, je suis pas très toubib, et je dis, je sais pas, docteur, je suis un peu ballonnée, bon, il me branche une échographie, et je vois un bébé qui suce son pouce, et il me dit, ma vue de nez, je dirais 4 mois et demi, quoi. Mmh. Bon, bref, heureusement je suis ravie aujourd'hui, mais enfin, c'est pour te dire, la pilule provoque des saignements exprès, qui ne sont pas des règles. Parce que justement, les femmes sont perturbées à l'idée de ne pas avoir de règles.
D'accord.
Voilà, donc tu vois, c'est pour te dire, il y a comme ça des espèces de projections sur l'idée que ce qu'attendent les gens, les hommes, les femmes, qui, par exemple, ne même pas envisager que des hommes pourraient avoir envie de baiser. Quel que soit leur âge, c'est même pas, il envisage l'idée. Ça peut être que parce que tu crois que c'est une maladie de pas baiser. Et s'ils avaient envie de baiser, ça lui a pas traversé l'esprit. Je trouve ça significatif, au-delà de l'aspect pratique du bouquin, d'une certaine idéologie quand même. Enfin, moi pour moi, hein. Non ?
Oui, c'est vrai que j'ai pas fouillé jusque-là, mais Il y a quelque chose d'un peu pas réac, mais quelque chose d'un peu de, comment dire, très tradition quoi.
Oui, puis très, tu sais, autour de l'idée de, il y a des gens qui voient la nature un peu comme Gaïa, comme une déesse, quoi, tu vois, qui ont une attitude quasiment religieuse avec l'idée que on doit pas contrarier la nature, tu vois. Or, je m'excuse, mais justement, si dans les pays occidentaux on vit plus longtemps que dans des pays qui ont que le chaman du coin, c'est parce que le système médical, l'un dans l'autre, est plutôt plus bénéfique que maléfique, même si, bien entendu, je suis d'accord avec le bouquin, que plein de choses seraient améliorées si seulement c'était pas le capitalisme, tu vois.
Oui.
Mais en même temps, quand même, on n'a pas à être résigné, par exemple. On n'a pas à être résigné à l'idée, c'est la nature qui l'a voulu, c'est comme ça. On la contrarie pas. C'est pas une entité, elle n'existe pas, la nature. Donc, tu vois dans quelle mesure et en plus, c'est vrai quand même que l'un dans l'autre, malgré la pollution, malgré la bouffe contaminée, malgré les médicaments qu'on te pousse à prendre quand on n'a pas besoin, l'un dans l'autre, malgré tout, les pays occidentaux s'en sortent mieux que des pays où, de toute façon, ils n'ont pas le choix, quoi, tu vois. Donc, je trouve que je ne veux pas niveler par le bas non plus. Je veux dire, je pense franchement qu'on ne serait pas dans une société capitaliste. Ça changerait tellement de choses, et en particulier sur la longévité. Tu vois, il y a Cavana et GB avaient écrit un livre dans les années 70 qui s'appelait Stop Crève. Et où ils avaient en fait développé que la recherche, ils avaient interrogé des chercheurs qui leur avaient dit qu'on ne poussait pas dans ce sens-là. Et donc, eux, on avait conclu qu'on serait dans une société différente. On pourrait, en effet, pousser la recherche, au lieu de la pousser dans un sens pour faire plus de blé, dans un sens pour que la longévité soit accrue. Ils n'imaginaient pas ne jamais vieillir ni jamais mourir,
ah oui.
mais que la longévité et l'état de santé soient vraiment accrus. Mmh. Mais que le capitalisme était responsable du fait que ça n'aille pas plus loin. Tu vois ce que je veux dire. Enfin, je d'accord. pense pas que ce livre soit encore disponible, mais c'était très intéressant.
Oui, d'accord. L'idée que dans une société, par exemple, libertaire ou anarchiste, on pourrait aller encore plus loin dans le fait que la vie humaine s'allonge.
Ouais, oui, et puis l'état de santé général, etc. Santé, voilà.
Oui, d'accord.
Et que la recherche aussi puisse se développer réellement, qu'elle est en réalité très bridée et très trop conditionnée par l'idée de... Bah, évidemment, enfin, c'est la logique même du capitalisme. Hein, c'est, je veux dire, le vin ça saoule et le capitalisme essaye de se faire du fric à n'importe quel prix, évidemment, tu vois. Mais je ne sais pas s'il y a encore moyen... même sur Internet, ou peut-être en le commandant, de trouver ce livre. Mais j'avais lu un article dans un vieux Charlie Hebdo, quoi, où ils expliquaient un petit peu quelle avait été leur démarche, et auprès de chercheurs qui étaient tous catégoriques, ils étaient bridés dans leur recherche. Et on peut dire d'ailleurs la même chose pour les recherches sur les énergies, etc., je trouve.
Oui. Mais bon. Oui. Oui, bah, et c'est un peu aussi le fait que dans cette société-là, capitaliste, c'est surtout le rendement, enfin le produit, la plus-value, comment dire, le profit qui est recherché plutôt que le bien-être des personnes.
Ben, c'est la logique même, hein. C'est pour ça que je te reviens à la punaise. Sa logique, c'est le sang, puis c'est tout.
Eh bien voilà, on va finir l'émission comme ça. Je n'ai pas d'annonce particulière à faire. Et
est-ce que tu sais quels sont les... Comme tu es allé, toi, moi, je n'ai pas pu y aller, mais tu es allé à l'ouverture du café de démocratie.
Oui, on peut faire un petit retour sur cette...
Oui, et puis, déjà, il paraît que c'est juste à côté, en plus du tramway, que c'est très facile à trouver, sauf quand on... quand on se trompe d'arrêt. Bref. Mais voilà, et donc ils vont être ouverts 2 jours par semaine, c'est bien ça?
Oui.
Je crois, hein, on reviendra là-dessus. Je vais essayer de faire une annonce. Voilà. On va essayer de rédiger une annonce pour Paris Lutte pour emmener les gens à y aller. Mais sinon.
C'était.
Donc tu peux déjà présenter un peu Démocratie. On part de l'idée que tout le monde les connaît, mais bon.
Oui, alors Démocratie, c'est un collectif de personnes qui sont à la fois des soignants, mais surtout des usagers, des personnes concernées, psychiatrisées, survivants de la psychiatrie, etc., qui se sont mises ensemble pour penser une autre manière d'aller vers le rétablissement, en échappant en quelque sorte à l'institution, à la chronicisation que l'institution impose à tous les patients, et à organiser le rétablissement par eux-mêmes, constatant que la psychiatrie n'a jamais réussi, quant à elle, à... accomplir cette tâche de rétablissement. Bien, il y a eu cette inauguration du Café Démocratie
Vitry, donc.
Vitry-sur-Seine, oui.
Tu peux rappeler l'adresse
C'est au 13 rue Constant Coquelin. Alors oui, donc on peut prendre le tramway 9 depuis où on veut, si on vient du nord ou du sud, mais à la station, on peut descendre à la station Constant Coquelin. Voilà.
T'as bien noté.
et donc le 22 novembre dernier, et c'était l'inauguration de ce Café Démocratie, qui a finalement fait venir pas mal de monde. Hein. Il y avait pas mal de monde. Voilà, et c'était bien joyeux comme ambiance. Il y avait des gens, des artistes au micro. Il y avait.
Il paraît que c'était des gens de Démocratie en réalité eux-mêmes.
Oui.
Les artistes invités.
Les meilleurs artistes du monde. C'était en fait.
C'est l'autogestion jusqu'au bout.
Donc, parce que vraiment, là, c'est pareil, l'expression, la créativité, tout ça, ça fait partie aussi des principes qui sont ceux de la D'une certaine aussi d'une certaine liberté quoi. Il n'y a pas de thérapeutique sans liberté en réalité.
J'ai eu des retours de cette soirée où les gens étaient tous formels. L'accueil est remarquable. Et c'est vrai qu'on était allé à une réunion publique de démocratie quand ils étaient dans un squat à Montreuil. Enfin, quand ils faisaient ça dans un squat à Montreuil. Et j'ai été très agréablement surprise parce que j'ai quand même fréquenté pas mal de squats. Et je dois dire que, par exemple, hein, ou des collectifs ou quoi. Et l'accueil n'est pas toujours à la hauteur. Les gens restent entre eux, t'as l'impression de faire un cheveu sur la soupe. Là, franchement, ils sont très très chaleureux, accueillants, ouais. À l'écoute. C'est vraiment, les gens sont venus vraiment ravis de ce contact avec démocratie. Voilà.
Oui,
donc
il faudra préciser.
Qu'on essaye de voir qu'est-ce que c'est leur jour d'accueil.
Oui. Il faut préciser que ils sont plus dans un squat.
Non,
c'est un local de la municipalité qui leur a été. Concédé, fourni, voilà.
Donc oui, voilà, mais enfin bon, c'est... Mais c'est bête, t'as vraiment aucune idée de leur jour d'ouverture.
Pas sous les yeux, non.
Ouais, mais même, j'ai l'impression que... Question communication, c'est pas...
En mémoire non plus. Oui.
Bon, enfin bref, on vous tiendra au courant.
Oui, bon, la semaine prochaine, si on veut. Eh bien, ainsi se termine l'entonnoir. Merci Sylvie. Et bon, voilà, on finit avec Courge. Et viendra ensuite l'émission Un rayon de soleil. Ciao, ciao.
Soleil.
Le libertaire debout, le soleil à son zénith. Une émission de Radio Libertaire Méditerranée.
Aux émusants, tu cassures.
Bonjour à tous, bienvenue dans Un rayon de soleil, l'émission du sud de la France sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, sans dieu, sans maître et sans publicité. 89.4, c'est la fréquence à Paris. Et puis, il y a du DAB+, c'est-à-dire la radio numérique terrestre, aussi dans Paris et la région parisienne. Et vous pouvez